Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans notre précédente lecture du livre « Les Quatre », écrit par Agatha Christie, nous avons vu que Hastings, pris par les Chinois, a été utilisé pour être un apport qui permettra de prendre au piège Hercule Poirot. Dans ce dernier, toujours bien renseigné, a fait échouer le piège et sauver in extremis Hastings aussi. Reprenons donc la lecture de ce livre. Chapitre 16. La blonde oxygénée. Je fus bien déçue par les résultats de ma dernière aventure. Pour commencer, le chef de la bande s'était enfui lorsque les hommes de Jap se précipitèrent au coup de sifflet de Poirot. Ils trouvèrent dans le hall quatre Chinois inanimés, mais celui qui m'avait menacé de mort n'était pas parmi eux. Maintenant, je me souviens qu'au moment où l'on me posta sur le pas de la porte pour attirer Poirot, le maître avait reculé au fond du hall. Il était sûrement resté en dehors de la zone du gaz répandu par la bombe et s'était sauvé par une des nombreuses sorties secrètes. Les prisonniers ne purent fournir aucun renseignement vraiment utile. Ils ne savaient absolument rien des quatre. C'étaient des habitants ordinaires du quartier chinois qui n'avaient même pas entendu le nom de Li Shangyan. Un gentleman chinois les avait pris à son service. Il ne savait rien de ses affaires personnelles. Le lendemain de mon aventure, j'étais complètement rétablie, sauf un léger mal de tête. Nous nous rendîmes dans ce quartier malfamé pour revoir la maison où j'avais été emprisonnée. L'immeuble comportait deux bâtiments lézardés et à demi en ruine, reliés entre eux par un couloir souterrain. Les rez-de-chaussée et étages supérieurs étaient vides, et les fenêtres, aux vitres cassées, étaient mal protégées par des volets en mauvais état. Jap, descendu pour perquisitionner dans les caves, avait découvert le fonctionnement du secret qui donnait accès au souterrain où j'avais passé un quart d'heure si désagréable. Une inspection minutieuse confirma mon impression de la veille. Les tentures de soie, les divans, les coussins, les tapis étaient de toute beauté. Sans être un connaisseur, je voyais que chaque objet était parfait dans son genre. Aidé de Jap et de ses hommes, nous procédâmes à une fouille en règle. J'espérais découvrir des documents importants. Une liste des agents principaux du Grand Quatuor ou certains de leurs plans. Mais il n'en fut rien. Les seuls papiers que nous découvrîmes furent les notes dont le Chinois s'était servi pour me dicter la lettre à Poirot. Elle constituait un rapport très complet sur nos préoccupations, nos caractères et nos points faibles respectifs. Poirot s'amusa comme un enfant de cette découverte. Personnellement, je n'attachais aucune importance à ces notes, dont certaines me paraissaient ridicules. De retour à la maison, je dis à Poirot, « Vous voilà fixé sur ce que l'ennemi pense de vous. Il exagère quelque peu, ne vous en déplaise, vos facultés intellectuelles. Par contre, il a mésestimé les miennes. Mais je ne vois pas en quoi tout cela nous avance. » Poirot réprima un petit rire. « Ne voyez-vous pas, Hastings, qu'il nous est plus facile de prévoir leur mode d'attaque ? Nous savons maintenant, par exemple, que vous devriez penser avant d'agir. Nous savons qu'une jolie femme rousse, en proie aux difficultés de la vie, ne doit pas vous attendrir. » Les fameuses notes me jugeaient sensible au charme des jeunes femmes très blondes, d'une blondeur peu accentuée. L'allusion de Poirot me sembla du plus mauvais goût, et je m'empressai de lui répondre en utilisant les armes de l'adversaire. « Et vous, mon cher Poirot, serez-vous guéri un jour de votre outrecuidante vanité ?» Cette répartie obligea mon ami à modifier tant soit peu son opinion sur la valeur des jugements dont nous étions l'objet. Évidemment, ils se trompent sur certains points, et cela vaut mieux. Le moment venu, ils apprendront la vérité. L'essentiel est de s'instruire. N'oublions pas que savoir, c'est être prêt. Cet axiome revenait constamment sur ses lèvres, et je commençais à me lasser de l'entendre plusieurs fois par jour. Certes, Hastings, nous savons quelque chose, c'est toujours ça. À nous d'en apprendre davantage. Mais quoi? Que faut-il encore chercher à savoir? Poirot s'installa dans son fauteuil, remit en place une boîte d'allumettes que j'avais négligemment jetée sur la table et prit une pause indiquant qu'il était disposé à s'étendre longuement sur ce sujet. Voyez-vous, Hastings, il nous faut lutter contre quatre adversaires très différents. Le numéro un, d'abord. Nous ne sommes jamais entrés en contact avec lui et nous ne pouvons en juger que par son activité. Tous les projets et complots que nous avons connus émanaient de lui. Li Shangyan, cerveau fin, subtil et aiguisé. Le numéro 2 et le numéro 3 sont si puissants et si haut placés que pour le moment, ils sont à l'abri de nos attaques. Mais par cela même, ils sont tellement exposés que leurs faits et gestes doivent extérieurement rester irréprochables. Enfin, vient le dernier de la bande, le numéro 4. Poirot baissa la voix comme toujours quand il parlait de ce personnage. Le numéro 2 et le numéro 3 peuvent réussir et poursuivre leur activité grâce à leur réputation mondiale et à leur situation assurée. Le numéro 4 doit son succès à des raisons contraires. Il réussit grâce à l'obscurité qui l'entoure. Qui est-il? Personne ne le sait. Comment est-il? On ne le sait pas davantage. Combien de fois, vous et moi, l'avons-nous vu? 5 fois, je crois. L'un de nous peut-il se vanter de l'avoir véritablement reconnu? Je fus bien obligé de secouer négativement la tête pendant que repassaient dans ma mémoire ces 5 individus différents qui cependant n'en faisaient qu'un seul. Le corpulent gardien d'asile, le visiteur parisien au col relevé, James le valet de pied, le jeune docteur de l'affaire du jasmin jaune et pour terminer, le professeur russe. Aucun d'entre eux ne ressemblait aux autres. Non, dis-je découragé, rien ne peut nous le faire reconnaître. La brève de Je lis pour vous. Poirot sourit. Ne vous abandonnez pas au désespoir. Il y a une ou deux choses que nous savons. Par exemple, demandai-je sceptique. Nous savons que le numéro 4 est de taille moyenne et qu'il est châtain ou blond. En effet, s'il était grand et brun, et s'il avait un teint basané, il n'aurait pu se faire passer pour le docteur Quentin qui est trapu et qui a le teint clair. Convenons toutefois qu'il est facile à James ou au professeur de se grandir de 2 ou 3 centimètres. D'autre part, il doit avoir un nez court et droit. Un maquillage habile peut toujours faire paraître un nez plus grand qu'il n'est en réalité, mais il est difficile de le raccourcir. Enfin, il ne doit pas avoir plus de 35 ans. Si nous récapitulons, le signalement devrait être le suivant. Âge, 30 à 35 ans. Taille moyenne, teint clair. Particularité, porte un assez grand nombre de fausses dents. Observation, expert dans l'art du maquillage. Comment savez-vous qu'il a de fausses dents? Souvenez-vous que le gardien de l'asile avait des dents cassées et jaunes. Le Parisien les avait régulières et blanches. Le docteur Quentin, légèrement avançante, et Savaronov, extraordinairement longue. Rien ne modifie une physionomie autant qu'une dentition interchangeable. Voyez-vous maintenant où tout cela nous mène ? Pas précisément. On prétend que les individus portent sur leur visage le reflet de leur profession. En l'occurrence, il s'agit d'un criminel. Oui, mais d'un expert en maquillage. Ce qui revient au même. Permettez, il y a des experts en maquillage qui ne sont pas le moins du monde des criminels. Vous n'avez qu'à entrer dans les coulisses d'un théâtre. Ne croyez-vous pas que notre homme a été, ou est, acteur ? Acteur ? Certainement. Il en possède la technique sur le bout des doigts. Notez qu'il y a deux sortes d'acteurs. Ceux qui se mettent dans la peau du rôle, comme on dit communément, et ceux qui, au contraire, donnent leur propre personnalité au rôle qu'ils jouent. C'est généralement cette dernière catégorie qui fournit les grands acteurs, alors que la première ne donne que des imitateurs. C'est parmi eux qu'il nous faut chercher le numéro 4. Ces imitations sont des chefs-d'œuvre. Si je vous comprends bien, Poirot, vous comptez découvrir la trace de ce quatrième larron dans le monde du théâtre. Parfaitement, Hastings. Vous avez un esprit de déduction admirable. Quel dommage, dire sèchement, que cette idée ne vous soit pas venue à l'esprit un peu plus tôt. Nous aurions perdu moins de temps. Vous faites erreur, mon ami. Voilà plusieurs mois déjà que mes agents sont au travail. L'un d'eux est Joseph Aarons, dont vous vous souvenez probablement. Ils ont compilé pour moi une liste d'individus répondant plus ou moins au signalement que je viens de vous soumettre, et particulièrement doués pour des imitations de personnages. En majeure partie, des acteurs qui ont quitté la scène au cours de ces trois dernières années. Et alors ? Demandai-je intéressé. Vous devez imaginer ça, la liste est longue. Nous savons pour le moment qu'il y a retenu quatre noms. Et les voici. Poirot me lança une feuille de papier dont je lus le texte à haute voix. Ernest Luttrell, fils d'un clergyman d'une petite ville du Nord, a fait le désespoir de ses parents par son immoralité. A été renvoyé de l'école secondaire, a débuté au théâtre à 23 ans, suivez la liste des différents rôles et des dates auxquelles il les interpréta. S'adonnait aux stupéfiants, on le croit parti pour l'Australie il y a 4 ans, n'a jamais été revu en Angleterre depuis, âge 32 ans, taille 1m78, visage rasé, cheveux bruns, nez droit, teint clair, yeux gris. John Semmore, nom d'emprunt. On ignore son vrai nom. On le suppose d'origine modeste. A fréquenté la scène dès son jeune âge. A fait avec succès des imitations au music-hall, sans nouvelles de lui depuis 3 ans, âge environ 33 ans, taille 1m76, yeux bleus et teint clair. Austen Lee, nom d'emprunt. Son vrai nom est Austen Foley, de bonne famille, a toujours eu le goût du théâtre, a quitté Oxford pour le théâtre. Suivez la liste de ses différentes créations. Se passionne pour la criminologie, a subi un choc nerveux à la suite d'un accident d'automobile survenu il y a 3 ans et demi et n'a pas reparu au théâtre depuis. On ignore où il se trouve actuellement. Âge 35 ans, taille 1m74, teint clair, yeux bleus, cheveux bruns. Claude Darrell. On suppose que c'est son vrai nom, origine mystérieuse. A joué au music-hall et au théâtre, semblait ne pas avoir d'amis, est allé en Chine il y a 6 ans, de là s'est rendu en Amérique et a joué quelques pièces à New York. Un soir, il n'a pas paru sur le plateau et on ne l'a jamais revu depuis. La police new-yorkaise qualifie sa disparition de « très mystérieuse ». Âge environ 33 ans, cheveux châtains, clairs, teint frais, yeux gris, taille 1m79. Très intéressant, dis-je en posant le papier. Voilà donc le résultat de recherches qui ont duré des mois. De ces quatre noms, lequel êtes-vous enclin à retenir ? Poirot eut un geste plein d'éloquence. Mon cher, pour le moment, la question reste posée. Je vous ferai simplement remarquer que Claude Darel est allé en Chine et en Amérique. Un fait qui n'est peut-être pas sans signification. Mais ne nous laissons pas trop influencer. Ce n'est peut-être qu'une simple coïncidence. Qu'allons-nous faire ? Demandai-je avec empressement. Nous avons déjà fait quelque chose. Tous les jours, dans les grands journaux, paraissent des annonces soigneusement rédigées. Les parents et les amis des uns et des autres sont priés de se mettre en rapport avec mon homme d'affaires, à son bureau, naturellement. Il se pourrait même qu'aujourd'hui... Ah, le téléphone. Probablement encore un faux numéro. À moins que... Je décrochai le récepteur. Oui, vous êtes bien chez Monsieur Poirot. C'est le capitaine Hastings qui vous répond. Oh, c'est vous, Monsieur McNeil? Messieurs, Mrs. McNeil et Houghton étaient des hommes d'affaires de Poirot. Je le préviens, et nous arrivons tout de suite. Je posai le récepteur et me tournai vers Poirot en proie à une vive agitation. Dites donc, Poirot, ils ont une femme chez eux qui se dit une amie de Claude Darel et une certaine mademoiselle Flossie Monroe, McNeil, vous attend. J'y cours, cria Poirot en saisissant son chapeau. Un taxi nous déposa rapidement au bureau de McNeil, qui nous reçut aussitôt.
La brève de « Je lis pour vous ».
En face de l'homme d'affaires, dans un fauteuil, était assise une dame qui avait depuis longtemps dépassé les limites de la première et même de la deuxième jeunesse. Ses cheveux d'un blond invraisemblable encadraient un visage abondamment maquillé. Une bouche flamboyante à l'arc de Vénus soigneusement tracée nous sourit coquettement. « Je vous présente Monsieur Poirot, » dit McNeil. « Monsieur Poirot, mademoiselle, Monroe, a eu l'amabilité de répondre à votre annonce. « Vous êtes trop aimable, mademoiselle, » déclara Poirot. Et s'approchant d'elle, il lui serra la main avec cordialité. Ce vieux bureau poussiéreux fait encore ressortir la fraîcheur de mademoiselle, ajouta-t-il sans se préoccuper des sentiments de messieurs McNeil et Hodgson. Cette basse flatterie ne fut pas sans effet sur mademoiselle Monroe qui rougit et minauda. « Oh, vous plaisantez, monsieur Poirot, je vous connais, vous autres Français. » À l'inverse de nos amis anglais, nous ne savons rester muets en face de la beauté, mademoiselle. Permettez-moi d'ajouter que je ne suis pas français, mais belge. « Je connais Ostende, » s'empressa de déclarer mademoiselle Monroe. La galanterie de Poirot l'avait évidemment subjuguée. « Vous êtes à même, mademoiselle, de nous donner quelques renseignements sur monsieur Claude Darel, » reprit Poirot. « J'ai connu monsieur Darel de très près. Quand j'ai vu votre annonce, je me suis dit « Ces messieurs doivent désirer des renseignements sur ce pauvre Claudie, puisque ce sont des hommes de loi, peut-être s'agit-il d'une succession. Et comme je ne travaille pas en ce moment, je suis venu immédiatement. » Monsieur McNeil se leva. « Dois-je vous laisser poursuivre votre entretien avec mademoiselle Monroe, monsieur Poirot ?»« Vous êtes très aimable, monsieur McNeil. Restez, je vous prie, il me vient une petite idée. » « L'heure du déjeuner approche et j'espère que mademoiselle me fera l'honneur de le partager. » Les yeux de mademoiselle Monroe brillèrent de satisfaction. Ses fonds devaient être en baisse et un repas convenable lui ferait plaisir. Peu après, nous roulions tous trois dans un taxi vers un des meilleurs restaurants de Londres, où Poirot commanda un repas soigné. « Quel vin préférez-vous, mademoiselle ?» Aimez-vous le champagne ? Mademoiselle Monroe, décidément, adorait Poirot. Le grand détective remplissait le verre de la jeune dame avec une assiduité qui en disait long. Petit à petit, il l'amena à parler du sujet qui lui tenait à cœur. « Quel dommage que ce pauvre monsieur Darrel ne soit pas avec nous !»« Oui, vraiment, soupira mademoiselle Moreau. Pauvre garçon, je me demande ce qui lui est arrivé. Y a-t-il longtemps que vous ne l'avez vu ?»« Une éternité !»« Il était bien cachotier, parlait peu de ses affaires. Il s'agit de... » D'un petit héritage, dit Poirot sans rougir. C'est pour le moment une question d'identification. Il nous faut parler à quelqu'un qui l'a bien connu. Car vous l'avez bien connu, n'est-ce pas, mademoiselle ? Trop bien, peut-être, monsieur Poirot. Je vous l'avoue, car vous êtes un gentleman. On le voit, rien qu'à la façon dont vous avez composé un menu. Un art ignoré des jeunes sauteurs d'aujourd'hui. Vous êtes français, mon aveu ne vous choquera pas. « Ah, vous autres, vous êtes des Français, tous des coquins !» Elle le menaça espièglement du doigt. « Eh bien, voilà, Claudie et moi, nous étions deux jeunesses, quoi de plus naturel. J'avoue même que je garde un faible pour lui, et pourtant, il n'a pas toujours été chic avec moi. Il n'a pas eu les égards qu'un gentleman doit à une dame du monde. Il en va toujours ainsi dès qu'il est question d'argent. » « Ne dites pas cela, mademoiselle, » protesta Poirot, remplissant de nouveau le verre de l'ancienne actrice. « Claudie, vous aimez sûrement. Comment ne vous aimerait-on pas? Et vous, l'aimiez-vous vraiment? Physiquement, comment était-il? » « Il n'avait rien de particulier, » dit Flossie Monroe, comme se parlant à elle-même. Il n'était ni grand ni petit, mais bien bâti, les yeux gris-bleus, les cheveux blonds d'une teinte neutre. Mais quel artiste ! Jamais je n'en ai vu de pareil. Il serait célèbre depuis longtemps si on n'avait pas monté d'intrigue contre lui. Ah, monsieur Poirot, la jalousie ! Vous ne vous faites pas une idée de ce que nous souffrons. Je me souviens qu'une fois, à Manchester, il nous fallut toute notre patience pour écouter jusqu'au bout une histoire longue et compliquée sur les infâmes menaces de la grande vedette d'un théâtre de Manchester. Poirot, avec ménagement, ramena notre interlocuteur sur le sujet de Claude Darrel. Tout ce que vous nous dites de M. Darrel est extrêmement intéressant, mademoiselle. Les femmes sont d'admirables observatrices. Elles voient tout et notent parfois les détails qui échapperaient à n'importe lequel d'entre nous. J'ai vu une femme identifier un homme parmi 12 autres. Comment y est-elle parvenue? Tout simplement parce qu'il avait la manie de se frotter le nez lorsqu'il était préoccupé. Jamais un homme n'aurait prêté attention à un tel geste. « Cela ne me surprend pas, » répondit mademoiselle Moreau. « Je crois en effet que nous avons le don d'observation. Vous me faites penser à la manie qu'avait Claudie de jouer avec son pain quand il était à table. Il roulait des boulettes de pain, ou bien avec un morceau de mie, ramassait les miettes. Je l'ai vu faire cela plus de 100 fois. À ce geste, je le reconnaîtrai n'importe où. Les femmes sont extraordinaires. » Et vous faites honneur au beau sexe, s'empressa de dire Poirot. Lui avez-vous fait remarquer cette petite manie, mademoiselle ? Non, jamais. Vous connaissez les hommes, ils n'aiment pas les observations. Jamais je n'y ai fait allusion. Je me contentais d'en rire en moi-même. C'était de sa part un geste tout à fait inconscient. Poirot fit un signe d'approbation. Je remarquai que sa main tremblait légèrement lorsqu'il portait son verre à ses lèvres. « Il y a toujours l'écriture comme moyen d'identification, » reprit-il. « Vous avez certainement dû conserver une lettre de M. Darrel. » Flossie fit la moue. « Il n'aimait pas écrire. Jamais il ne m'a écrit un mot. »« Ah, c'est regrettable, » dit Poirot. « Cependant, « je vais vous dire une chose, » reprit brusquement l'actrice. « J'ai une photographie, si cela peut vous être utile. »« Vous avez une photographie ?» dit Poirot en bondissant presque de joie. « Oui, mais elle est très vieille. Elle date d'il y a au moins 8 ans. »« Peu importe, quelle chance. J'espère que vous me permettrez de l'examiner. Mais certainement, monsieur Poirot. M'autorisez-vous à en faire un cliché? Cela demandera peu de temps. Mais volontiers. Mademoiselle Monroe se leva. Il faut que je me sauve, dit-elle. Je suis très contente de vous avoir rencontré, monsieur Poirot. Quand pourrez-vous me confier la photographie? Je la chercherai ce soir. Je crois me rappeler où elle est. Et je vous l'enverrai immédiatement. Merci, merci mille fois. Vous êtes on ne peut plus aimable. J'espère que nous aurons bientôt le plaisir de déjeuner de nouveau ensemble. Tout le plaisir est pour moi, minauda la belle blonde. Permettez que je vous demande votre adresse. D'un air digne, mademoiselle Monroe tira de son sac une carte un peu salie et la tendit à mon ami. L'ancienne adresse avait été grattée et remplacée au crayon par une nouvelle. Après forces courbettes et salamalettes, nous prîmes congé de notre charmante convive. « Pensez-vous que cette photo puisse vraiment nous servir ?» demandai-je à Poirot. « Certainement, mon cher. Une photo ne ment pas. Nous la ferons agrandir et nous verrons certains détails qui, autrement, pourraient nous échapper. La forme des oreilles, par exemple. Et si Claude Darel était vraiment le numéro 4, c'est un fameux atout qui nous tombe entre les mains. Aussi, devrons-nous prendre nos précautions ?» Il demanda au téléphone le numéro d'une agence de police privée à laquelle il avait recours de temps à autre. Ses recommandations étaient précises. Deux hommes devaient se rendre à l'adresse qu'il donnait et veiller à ce qu'il n'arrivât rien à mademoiselle Monroe. « Cela vous paraît-il vraiment nécessaire ?»« On ne sait jamais. De toute façon, vous et moi, nous sommes certainement filés et on saura avec qui nous avons déjeuné aujourd'hui. Le numéro 4 pourrait bien flairer le danger. » 20 minutes plus tard, la sonnerie du téléphone retentit. Une voix brève se fit entendre. « Monsieur Poirot, ici l'hôtel Saint-James. On vient de nous amener une femme, il y a 10 minutes. Un accident de la circulation. Elle se nomme Flossie Monroe et insiste pour vous voir. « Venez tout de suite, il se peut qu'elle ne survive pas. » Je transmis la communication à Poirot qui devint pâle d'émotion. « Vite, Hastings, filons immédiatement. » 10 minutes après, un taxi nous déposa à l'hôpital. Une religieuse en coiffe blanche vint à notre rencontre dans le couloir. Poirot comprit aussitôt. « Tout est fini ?»« Elle est morte, il y a 5 minutes. » Poirot fut littéralement abasourdi. La religieuse, se méprenant sur son émotion, lui dit avec douceur « Elle n'a pas souffert. Vers la fin, elle a perdu connaissance. C'est une auto qui l'a renversée. Le chauffeur s'est enfui. N'est-ce pas épouvantable? Espérons que quelqu'un aura relevé le numéro. » « Tout est contre nous, » dit Poirot à voix basse. « Désirez-vous la voir ?» L'infirmière nous conduisit vers la pauvre Flossie Monroe. On eût dit qu'elle reposait, un léger sourire sur ses lèvres encore fardées. « Oui, » murmura Poirot, « le ciel est contre nous. » Puis, relevant la tête, il demanda « Est-ce bien un accident ? Oh, Hastings, s'il en est autrement, je jure sur le corps de cette femme que je serai sans pitié. Que voulez-vous dire ?» Poirot se tourna vers la sœur et lui demanda des précisions. Il obtint la liste des objets trouvés dans le sac à main. « Voyez-vous, Hastings ? Voyez-vous ? Non, je ne vois rien. Il n'y a pas de clé sur cette liste et pourtant elle en avait certainement une sur elle. Plus de doute, elle a été écrasée de sang-froid et la première personne qui s'est penchée sur elle a pris la clé dans son sac. Peut-être arriverons-nous à temps avant qu'il n'ait trouvé ce qu'il cherche. » Un autre taxi nous conduisit à l'adresse que Flossie Monroe nous avait donnée. C'était une maison malpropre dans un quartier désagréable. nous eûmes quelques difficultés à pénétrer dans l'appartement. Mais au moins, nous nous consolions à la pensée que personne n'en pourrait sortir sans être vu. Hélas, on nous avait devancés. Les meubles avaient été fracturés, les effets, les bibelots gisaient sur le sol. Une chaise et un guéridon renversés témoignaient de la hâte de ceux qui nous avaient précédés. Poirot commença ses recherches parmi le désordre. Brusquement, il se releva en poussant un cri et en brandissant un petit objet. « Un vieux cadre à photographie, mais vide !» Poirot le retourna lentement. Au dos était collée une petite étiquette ronde indiquant le prix de l'objet. « Il a coûté 4 shillings, dis-je. »« Hastings, ouvrez les yeux, cette étiquette est neuve. On l'a collée par défi. Celui qui a passé ici avant nous pour s'emparer de la photo savait que nous viendrions. C'est Claude Darel lui-même, alias le numéro 4. » Suite au questionnement de Hercule Poirot, voilà qu'une Mademoiselle Monroe se présente chez l'homme d'affaires de M. Poirot. Elle vient apporter des connaissances à propos d'un certain Claude Darel, artiste de théâtre, qu'elle a bien connu. Elle propose même de trouver dans ses propres affaires une photo de lui dans sa jeunesse théâtrale. Mais la malheureuse n'aura pas le temps de la donner à Poirot. Elle sera écrasée par un chauffard. Et la photo a disparu de son cadre. Poirot traduit la fin de l'histoire de Mademoiselle Monroe comme ceci. Claude Darel est le numéro 4. Et il ne voudrait pas être déçu, ce pauvre Poirot. À bientôt, chers auditeurs, pour la suite de notre lecture. N'oubliez pas, émission « Je lis pour vous ». Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB Plus, en direct ou nos podcasts. À très bientôt et vous trouverez la suite de notre énigme.